Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 30e de la saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour à Jean-Marc Wagner et Olivier Coulon qui représentent la CAPEB.
Bonjour.
Alors, la CAPEB, précisons-le, c'est les petits artisans du bâtiment, spécialisés dans le bâtiment.
C'est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment.
Voilà.
Et nous sommes une confédération.
C'est-à-dire que
chaque département a une chambre syndicale. Et au niveau national, nous avons donc une confédération qui se trouve rue Béranger. À République, à Paris.
Voilà. Et donc, vous, Jean-Marc Wagner, vous en êtes le président au doigt.
Oui, je suis le président au doigt depuis 2 ans. J'ai succédé à M. Patrick Issali, bien connu, sur le territoire narbonnais.
Sur le territoire narbonnais. Alors, je rappelle que selon cette émission Radio Barque, la troisième partie vous sera consacrée entièrement. Nous allons évoquer avec Michel un certain nombre de sujets, pendant lesquels, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi donner votre point de vue dans le style de l'émission habituelle.
D'accord.
Alors, le sommaire, Michel, tu vas commencer par un sujet qui t'a mis en colère sur ton blog, c'est les viticulteurs au Boulou qui ont vidé des cuves de vin espagnol.
De citernes, oui, j'en dirais deux mots.
Ça nous rajeunit quand même beaucoup, ça.
Ah oui, en effet, oui.
On va y revenir, 40 ans en arrière au moins. Bon, après quoi, tu as fait un blog également sur la procédure de nomination de notre future grande région.
On en parle tous les jours dans la presse régionale et locale.
Pour en parler, on en parle, effectivement. Dans une deuxième partie de ce Radio Barque, nous parlerons de le projet de salle multimodale de la mairie de Narbonne. Alors là encore, toi tu en parles, ça crée pas mal de vagues, de
recours,
ça polémique pas mal. Et puis, nous terminerons par ce que tu appelles la nuit debout. Alors ce sont ces manifestants en place de la République à Paris, qui semblent t'amuser d'ailleurs sur la façon dont les choses se passent.
Oui, je me suis réveillé ce matin avec cette idée de billet dans la tête et je l'ai jeté, si je puis dire, sur mon blog.
Voilà, bien. Alors commençons par une scène qui nous rappelle, je le disais tout à l'heure, presque 40 ans en arrière, un moment où on vient de sortir un film qui célébrait, entre guillemets, le mot est peut-être mal choisi, les 40 ans de la fusillade de Montredon, où on a revu à l'époque comment les choses se passaient.
Oui, et juste avant d'ailleurs, le même syndicat de vignerons s'était illustré par une polémique lancée par son président à propos du Tour de France et de la promotion que ferait le Tour de France de vin chilien. Ce qui, nos auditeurs s'en souviennent peut-être, est totalement faux, puisque la promotion du vin en question est interdite sur les routes de France par la loi Evin.
La loi Evin oblige.
Et l'accord signé à l'époque, signé toujours d'ailleurs et maintenu par le Tour de France, l'était avec un groupe important de vins chiliens, et qui ne concernait que la promotion sur les routes d'Angleterre, de Belgique et de Suisse.
Là où le Tour de France n'est pas en France.
Exactement. Je ferme la parenthèse. Donc nos viticulteurs audois, toujours dans cette tradition de contestation qui remonte fort loin dans le temps, ils étaient une petite centaine, mais quand même, quoi. On est descendu en caravane, si j'ai pu dire, le long de l'autoroute pour rejoindre le Boulou, non pas pour y faire une cure d'eau, les eaux célèbres de Boulou, mais pour y vider des citernes de vin espagnol qui paraît-il, porteraient préjudice à leurs intérêts et qui contribueraient à faire baisser leur prix. Alors j'ai noté d'ailleurs dans ce billet, que, après m'être informé dans la presse du Roussillon, que le préfet de Céré, Bonas, s'était enquis auprès d'eux si tout allait bien. Au point d'ailleurs, je me suis demandé ce qu'il avait fait, s'il avait fait sur une cantine derrière avec le saucisson, le pâté, pour discuter le bout de gras avec nos viticulteurs.
Alors, drôle d'image de sous-préfet au champ, là, Michel.
Oui, là, au champ, alors, quand on connaît Céré, qui est une petite sous-préfecture, rigolote, mais comme s'il n'avait que ça à faire, le préfet, le sous-préfet en question. Bon, passons. Tout ça pour dire que Ça a été pris par les autorités locales sur le ton de la bonne franquette, hein, mais que ça signifie quand même d'un point de vue économique et politique, beaucoup, quand même, quoi. On ne peut pas continuer, ça a été mon coup de colère, en fait, mon humeur, hein, dans mon blog, on ne peut pas continuer comme ça, alors que nos vignerons locaux, hein, et départementaux, régionaux, font d'immenses efforts de promotion pour vendre des vins qui, aujourd'hui, sont incontestablement de vins de qualité.
Et s'exportent
très bien, y compris en fait, des vins produits et vendus par des coopérateurs et vendus par leur structure de commercialisation un peu partout dans le monde, notamment au Chili et en Asie. Quand même, paradoxe, quoi. Hein. Et continuer, effectivement, à faire de la communication, de la contre-communication à travers ce coup de force d'autant plus stupide. Et alors là, bon, quand même, il fallait oser, quoi, hein, que les citernes en question avait été commandé par qui ?
Destiné à Val-d'Orbieu.
À Val-d'Orbieu, c'est-à-dire que dans les coopérateurs qui manifestaient, qui ont vidé les cuves, il y avait probablement, statistiquement parlant, un ou deux coopérateurs, oui, du Val-d'Orbieu.
Bon, ça, c'est toi qui le dis, Michel.
Non, mais on est dans des situations, je veux dire, absurdes. Et nos politiques locaux qui... Alors évidemment, parmi cette catégorie-là de coopérateurs, il y a probablement une proportion d'électeurs de gauche, entre guillemets, puisque nos députés, nos parlementaires sont de gauche, nos parlementaires se sont tus, se taisent. Il n'y en a qu'un qui s'est exprimé. Hein, c'est Éric Andrieux, parlementaire européen, il ne pouvait pas faire autrement. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il dit qu'il dit, ben, c'est pas acceptable ce genre de manif, mais, il faut rechercher les causes, et donc les causes sont légitimes. On est dans le faux cul, là, tout à fait classique, face à ce genre d'événement, au lieu de dire tranquillement, c'est inacceptable pour tout un tas de raisons, et on ne peut pas continuer comme ça, on va chercher des circonstances atténuantes pour, d'une certaine manière, légitimer.
C'est toujours ménager la chèvre et le chou.
Jean-Claude, ça suffit.
Oui, ça suffit. Cela dit, quand même, il reste que cette Europe, qui est une très belle idée par ailleurs, a quand même des dysfonctionnements qui reste quand même, enfin, qui interpelle quand même.
Non, mais il n'y a pas de dysfonctionnement. Castagny lui-même,
le patron du ex-Val-d'Orbieu,
nous explique que ça n'a aucune conséquence. Le vin qu'il a acheté et que ses coopérateurs probablement ont vidé ce soir n'a aucune conséquence sur le prix. Absolument aucune. Hein. Et que, voilà, donc, et pourquoi il n'y a pas de conséquence ? Parce qu'il y a un manque de ce type de vin pour justement permettre à Val-d'Orbieu et aux coopérateurs de mieux vendre effectivement leur production. On est dans l'absurdité économique et politique totale. Je maintiens mon propos, Jean-Claude.
Voilà. Alors maintenant, la grande région et son nom sur lequel on tâtonne beaucoup, sur lequel on débat beaucoup, ça t'a inspiré aussi ?
Ça n'arrête pas dans le Midi Libre, dans l'Indépendant, dans la Dépêche, qui appartiennent au même groupe. C'est le sujet qui vient tous les jours sur le tapis. Quel nom donner à notre grande région qui aujourd'hui, provisoirement, porte le nom de Languedoc-Roussillon, oui, Midi-Pyrénées.
Alors après les Hauts-de-France dans le Nord, on va quand même pas s'appeler les Bas-de-France.
Non, pas les Bas-de-France. Alors, quand même deux mots sur la procédure. Hein. Le préfet de Toulouse, hein, le préfet de la grande région, a déjà saisi le comité économique et social environnemental, hein, pour lui demander bon, quels sont les critères qui pourraient permettre de donner un nom et proposer un nom. Le comité en question a répondu Languedoc-Pyrénées. Ce qui, entre parenthèses, bon, c'est pas que je veuille me vanter, en fait, en l'espèce, ce que j'avais proposé dans un des billets de mon blog comme compromis le plus acceptable. Je ferme la parenthèse. Hein. Donc le comité comme ça a répondu. Deuxième temps de la procédure, la région, donc le conseil régional, doit se prononcer lui aussi sur un nom. Et donc, dans le cadre de cette procédure, Madame Delga propose plutôt une consultation dite citoyenne. Alors, sur quel modèle, on n'en sait rien, probablement informatique, avec une liste de noms qui sont proposés, Languedoc, Terre d'Oc, Occitanie, Pyrénées, Languedoc-Pyrénées, Pays d'Oc, Midi et Occitanie-Roussillon. Bon, alors, à mon avis, la liste est beaucoup trop longue, parce que je ne vois pas les internautes comment ils vont pouvoir répondre à ça, bon, il va y avoir des bugs un peu partout. Je note qu'il y a Languedoc-Roussillon, Languedoc-Pyrénées, comme le comité économique et social, hein, et que figure en tête Languedoc. ce qui me laisse à penser que probablement que dans l'esprit de la commission qui a été mise en place pour sélectionner ces noms, ce Languedoc en question tiendrait la route. Oui. Ce qui effectivement
ce qui, historiquement et géographiquement n'est pas absurde. Là,
ce qui n'est pas dans l'absurdité. Et d'ailleurs, si nos auditeurs veulent aller plus loin pour comprendre effectivement qu'on n'est pas dans l'absurdité, je les invite, si tu me le permets, à aller sur mon blog et lire l'article, le billet que j'ai fait en question et qui explique effectivement, preuve historique à l'appui, que c'est pas forcément idiot.
Et à s'inspirer pour participer, s'il le souhaite, à ce sondage.
En toute intelligence, du coup, oui.
Voilà. Et l'on marque une première pause.